France Musique. Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe.
Bonsoir Émilie, nous sommes ensemble jusqu'à 22h avec une belle actualité du disque et on commence tout de suite avec du violoncelle. C'est une ardente interprète de la musique de son temps, la violoncelliste Marie Ithier, qui est aujourd'hui la muse de plus d'un compositeur. On reçoit régulièrement des disques et elle nous dit « Depuis l'enfance, j'ai un goût particulier pour les bruitages. J'adorais soliloquer, improviser et apprendre de nouvelles langues. » C'est ce qu'elle nous dit dans la préface de ce disque.
Amusant.
Alors ça aide, je pense, pour le milieu contemporain,
absolument,
de vouloir apprendre de nouvelles langues, d'aimer le bruitage. Elle est toujours soucieuse de la musique de son temps et lorsqu'on lui demande, paraît-il, de penser un programme avec des créations, eh bien elle écoute à l'aveugle plein de compositeurs et elle choisit celui ou ceux qui lui plaisent le plus. Et ça aussi, je pense que c'est une bonne méthode, finalement, ne pas se fier à un nom ou à une image, mais vraiment à une écoute seulement. Je ne suis influencé par rien d'autre que le son et je me laisse porter vers la singularité de l'écriture, nous dit-elle. Trois jeunes compositeurs sur ce disque, Augustin Brault, Matteo Gualandi, que vous venez d'entendre ici pour une pièce pour violoncelle seul, et puis Bastien David, avec un beau concerto pour violoncelle. Tout part d'une pièce pour violoncelle seule composée pour elle pour le festival de Messiaen et l'envie de poursuivre l'aventure avec ce concerto.
Thank you.
L'ombre d'un doute pour deux violoncelles, c'est la musique de Bastien David. On y retrouve donc l'héroïne de notre disque, Marie Itier, qui est ici avec Arne de Force, deuxième violoncelle, l'Orchestre National Auvergne-Rhône-Alpes sous la direction de Thomas Zettmeyer. Et c'est un disque qui paraît pour le label B-Records.
France Musique, en piste contemporain, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Une compositrice maintenant aimée des orchestres et des chefs d'aujourd'hui et particulièrement par les pays anglo-saxons. Elle a été jouée par le LSO et François-Xavier Roth, par le San Francisco Symphony et Esa-Pekka Salonen. Il s'agit de l'américaine Elisabeth Ogonek. Et on comprend le succès de sa musique pour orchestre qui est à la fois bien écrite, très efficace et facile d'accès. Donc c'est sûr que c'est un langage qui touche à mon avis un maximum de spectateurs. Elisabeth Ogonek est née en 89. Elle a été en résidence à l'orchestre de Chicago et elle y a créé sous la baguette de Riccardo Muti, l'œuvre que l'on va entendre qui s'appelle « All This Light and Things », trois petites danses pour orchestre. C'est une phrase qui est tirée d'un poème du franco-américain Thomas Merton qui nous parle de la nature et on nous dit que dans ce poème, c'est un moment de douce adoration qui crée une sensation d'union avec la terre à l'aube d'une journée ensoleillée. Donc l'aube va dissiper l'obscurité apportant une nouvelle lumière. Alors tout cela se fait avec rythme parce que ce sont donc des danses, même si on a un mouvement central qui s'étire comme à la dérive un petit peu dans la brume. Et donc, une pièce qui fait de l'effet, qui est dirigée par une chef dont on a parlé dans nos trompistes quotidiens il y a quelques jours, Elim Chan, une musicienne très demandée des orchestres et qui connaît particulièrement la musique d'Elisabeth Ogonek qu'elle a l'habitude de jouer. Thank you. All These Light and Things, c'est la musique d'Elisabeth Ogonek avec l'orchestre d'Anvers dirigé par Elim Chan qui intègre donc cette pièce triptyque dans un programme autour de la danse dont on a parlé jeudi dernier dans notre Empice au quotidien. Il y a Prokofiev, Roméo et Juliette, Daphnis et Chloé de Ravel et donc cette pièce d'Elisabeth Ogonek.
Et ce même jeudi dernier, je vous ai parlé d'un autre disque très beau d'Aline Kiboul qui a fait beaucoup réagir nos auditeurs du Empice quotidien, un disque qui nous présentait la musique de Liszt et celle d'Olivier Greff. Et je vous avais promis de revenir sur celle d'Olivier Greff parce que vous avez été nombreux à nous dire à quel point vous avez aimé cette musique. Et je comprends, puisque c'est une musique très inspirée de ce compositeur mort prématurément en 2000 à l'âge de 50 ans. Olivier Greff régulièrement enregistré et certaines œuvres sont encore à découvrir. C'est ce qu'on trouve sur ce disque avec des premiers enregistrements mondiaux. Ici, une 18e sonate. D'ailleurs,
on avait écouté la 21e,
je me souviens. Oui, et vous vous souvenez, elle était basée sur une chanson populaire.
Domino,
absolument. Alors ici, c'est pas une chanson populaire, c'est un poème chinois. Et c'est une autre période de la vie d'Olivier Greff qui est ici en ligne de mire. Une intense quête spirituelle. L'œuvre est parcourue aussi de thèmes indiens. Et on y trouve l'esprit du raga pour un voyage onirique, une sorte de grande improvisation rhapsodique. Et l'œuvre a été reconstituée à partir de manuscrits. C'est une partition qu'on a retrouvée après la mort du compositeur. Et Aline Piboul, ici, en donne une très belle interprétation.
Thank you.
18e sonate d'Olivier Greff d'après des poèmes de Li Taipo. C'est Aline Piboul qui nous propose ce très beau disque. Allez écouter aussi, alors elle est plus facile d'accès, peut-être la 21e sonate d'Olivier Greff, un petit peu plus tournée vers la musique de variété. Et c'est un disque publié par le label Artalina.
France Musique. En piste contemporain, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
L'ensemble Gauguin nous vient d'Amsterdam, ensemble clarinette, violoncelle et piano, et nous présente au disque une pièce écrite pour leur 25e anniversaire par un compositeur de leur pays qui s'appelle Robert Zuidam. Beau cadeau de ce compositeur qui, pour faire honneur au nom de l'ensemble, a écrit une œuvre qui s'inspire de la toile de Paul Gauguin, Area Rea, réalisée par le peintre à Tahiti. Vous voyez, regardez, je vous montre cette peinture.
Je ne sais pas, il se dégage une sorte de douceur avec ce chien au premier plan.
Ah! C'est la douceur qui vous vient.
Écoutez. Non, pas vous.
Ah si, ben je sais pas moi.
Une sorte de sensualité, de douceur.
Enfin, sensualité, c'est vrai.
Il y a pas de violence.
Non, je suis très intriguée par le regard de l'une des protagonistes qui regarde le peintre. C'est ça qui m'a. Je ne sais pas ce qui a inspiré, en tout cas, notre compositeur. Mais il a écrit sa pièce pour retranscrire musicalement la couleur et l'exotisme de cette peinture. C'est ce qu'il nous dit. Une partition qui demande beaucoup de ses interprètes, avec un piano utilisé comme instrument de percussion, une clarinette qui semble parfois improvisée. Et à l'écoute, on pourrait se dire d'ailleurs que les quatre mouvements évoque plutôt une peinture abstraite et plus moderne, en tout cas, que celle de Gauguin. Mais je pense que Robert Zuidam a voulu mettre en musique l'explosion de couleurs des toiles de Gauguin. Donc, quatre mouvements. Trois d'entre eux sont modernes, sans lien avec la tonalité, comme vous l'avez entendu. Et puis, au centre, un mouvement qui surprend et qui casse avec le reste de l'œuvre, car il renoue, lui, avec la tonalité, ou en tout cas, un certain genre de lyrisme. Aria pour clarinette, violoncelle et piano de Robert Zuidam, une pièce écrite pour l'ensemble Gauguin et inspirée donc de la toile du même nom de ce peintre.
Et voici le journal de la création avec Laurent Villarem. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Bonsoir Émilie, bonsoir Rodolphe. Dans le Carrefour, on parle souvent de création et plus rarement de reprise. Cette semaine dans le journal, on va parler de spectacles qui sont redonnés cette saison, comme la reprise de l'opéra d'Othman Louati, Les ailes du désir, créée en novembre dernier à Dunkerque. L'opéra Les ailes du désir, d'après le film de Wenders, est en effet redonné les 6 et 7 mai à l'opéra de Nantes, puis du 14 au 18 mai à l'opéra de Rennes, et enfin le 24 mai à Tourcoing. Rappelons que l'opéra de Louati est l'objet d'une coopérative et que le spectacle a déjà été donné à Dunkerque, Compiègne, Dijon, Besançon et Quimper. C'est super, hein ?
Quand il y a une reprise, c'est que ça a bien marché et ça fait vraiment plaisir.
On avait fait un carrefour avec Othman Louati, mais on a posé cette question au compositeur. Comment s'est passée votre année de compositeur avec cet opéra qui s'est joué durant toute la saison ?
Alors aujourd'hui, quand je réfléchis à l'opéra Les ailes du désir, il y a peut-être 3 points qui me viennent à l'esprit. D'abord, la joie d'avoir fait partie d'une équipe de créateurs qui a conçu un grand navire qui est maintenant conduit par un équipage et qui trouve des reflets en fonction des ports d'attache, de la tournée, en fonction de l'expérience acquise, des mers traversées. Et c'est assez passionnant à observer. Il y a aussi une petite frustration du perfectionniste qui aimerait à chaque fois mieux rater, comme disait Beckett, de pouvoir polir encore à chaque fois la pierre pour arriver à une plus grande vérité, une plus grande force dans l'œuvre. Et puis enfin, il y a un anachronisme. Je pense que lorsqu'on écrit des partitions, on doit savoir les abandonner. Et c'est toujours assez troublant de voir qu'une œuvre vit sa propre vie, encore une actualité, alors qu'on est déjà vers d'autres rivages et qu'on est déjà dans des pièces futures.
La voix de Marie-Laure Garnier, héroïne de l'opéra Les ailes du désir d'Othman Louati, qui est donc repris les 6 et 7 mai à Nantes, du 14 au 18 mai à Rennes et le 24 mai à Tourcoing. Parmi les grands événements de la semaine, il y a le festival Propagation organisé par le GMEM qui se tient à Marseille jusqu'à dimanche prochain. Les concerts se déroulent majoritairement à la Friche Belle de Mai. Vous connaissez bien Marseille ?
Pas tant que ça, moi. Ben, un petit peu.
C'est vrai que vous y allez de temps en temps, Émilie.
De temps en temps, ça arrive.
Alors, il y a quelques années, Marseille était un peu sinistrée niveau culture. Et là, il y a une vraie renaissance, j'ai l'impression. En tout cas, si on en juge par le line-up, comme on dit, du festival Propagation. On retrouve de très beaux spectacles qui ont déjà été créés ailleurs. Mais là, c'est comme un magnifique résumé de la saison, puisqu'on retrouve le spectacle Memento de Jérôme Combier, dont la première était à Musica de Strasbourg. Songs and Voices de Francesca Veronelli par l'ensemble Sébarré, donné pour la première fois au Gramme de Lyon, mais aussi Forêt de Franck Vigroux, Les Métamorphoses de Bastien David et des musiciens comme Joël Léandre et Sylvia Tarozzi. Et parmi les grands événements, il y a la reprise de l'opéra Alanti de Pierre Jodlowski.
Niemand klopft.
Seine Schritte
L'opéra Alanti de Jodlowski est donné le mardi 7 mai au Théâtre de la Criée de Marseille. Le spectacle a déjà été donné à Varsovie et à la Philharmonie de Paris et il s'inspire de la figure d'Alan Turing. On a posé 3 questions au compositeur. Pierre Jodlowski, qu'est-ce qui vous intéressait dans la trajectoire d'Alan Turing ?
Ce qui m'a intéressé dans la trajectoire d'Alan Turing, c'est le côté tout à fait tragique de ce personnage. C'est-à-dire que quand on regarde cette biographie, on est confronté à une sorte de paradoxe entre une personne qui a contribué de manière absolument essentielle au développement de la connaissance, puisque Turing était un immense mathématicien qui a contribué à décrypter le code Enigma pendant la guerre, qui est un peu le précurseur de l'intelligence artificielle, et qui pourtant, parce qu'il a avoué son homosexualité, il a été totalement banni finalement de l'Angleterre. Donc en fait, c'est cette trajectoire, je dirais paradoxale, que je trouve très propice pour rédiger un livret d'un opéra de chambre. En fait, c'était vraiment adapté, puisqu'on a cette figure comme ça qui traverse notre siècle et en forme de paradoxe.
Quels sont les éléments présents dans le spectacle Alanti?
Alors, les éléments présents dans le spectacle sont assez nombreux, puisqu'on a un ensemble de 5 musiciens, on a une soprane, on a un comédien, mais on a également les avatars de chaque musicien, c'est-à-dire que tous ces musiciens pilotent également leurs propres avatars sur des écrans qui sont projetés juste derrière eux. On voit le comédien, mais on ne le voit pas directement, puisqu'il est à l'arrière-plan du décor, mais par contre, il est également filmé en direct, donc ça permet de créer une distance, je dirais, intéressante par rapport à la manière qu'on a d'évoquer l'histoire de Turing, puisque ce comédien incarne clairement Alan Turing. Et puis, finalement, le dernier élément majeur du spectacle, c'est la machine. La scénographie a été développée de sorte qu'on ait l'impression d'observer une immense machine qui est posée comme ça sur le plateau, puisque l'un des axes de réflexion et de travail dans le livret, c'est vraiment l'interrogation sur notre rapport aux machines.
Pierre Jodlowski, comme on a pu l'entendre dans votre présentation, Alanti rassemble beaucoup de vos préoccupations. Comment placez-vous Alanti dans le parcours de votre œuvre ?
Alors, dans le parcours de mon œuvre, je dirais que Alanti est un peu une pièce de synthèse, c'est-à-dire c'est une œuvre dans laquelle j'ai été à même de synthétiser finalement de nombreux axes de recherche et de travail que je développe depuis plusieurs années. La relation à l'image, la relation au geste, la question finalement de la mise en scène des musiciens. Donc c'est une forme, on va dire, on peut appeler ça une sorte d'opéra de chambre, même si je trouve plus juste de parler d'un théâtre musical augmenté ou technologique. Et finalement, voilà, c'est à la fois une œuvre de synthèse, mais c'est aussi un jalon, parce que j'ai découvert au travers de ce projet, comme j'essaye de le faire à chaque fois que j'écris une pièce, de nouvelles choses. Ces choses-là pouvant être amenées à être développées par la suite. Donc c'est une pièce qui a, je dirais, quand même, de par sa taille, cette dimension un peu synthétique d'un savoir-faire que je développe depuis plusieurs années.
Événement Alanti de Pierre Jodlowski, qui se tient au Théâtre de la Criée de Marseille le 7 mai. Le festival Propagation se tient jusqu'à dimanche prochain dans différents lieux de Marseille. On termine ce journal par un programme qui a déjà beaucoup tourné, mais qui évolue constamment. C'est le programme Amérique par Vanessa Wagner, qui est donné le 6 mai au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. On retrouve des pièces pour piano de Bryce Dessner, Nico Muli, Meredith Monk, Philippe Glass, mais il y a deux événements. C'est d'abord la version d'Amérique de Varèse pour quatre pianistes, j'ai nommé Vanessa Wagner, Willem Lachoumia, David Cadouche et David Violi. Et l'autre événement, c'est que dans le programme, il y a une très belle pièce de Christopher Cerrone, qui est un compositeur avec qui j'ai fait un carrefour de la création.
Oui, on se souvient.
Finalement, il n'y a pas que les interprètes qui reprennent et défendent les œuvres qu'ils aiment, il y a aussi nous. Non ?
Oui, voilà. Non, mais la boucle est bouclée, vous avez raison.
Un extrait de The Arching Path de Christopher Cerrone. Un extrait de The Arching Path de Christopher Cerrone, concert Amérique, le 6 mai, au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris.
Merci Laurent Villarem, à la semaine prochaine.
Et merci à notre équipe qui était avec nous ce soir, Céline Parfenoff avec Grégory Wallon et Colline Redon.
À réécouter sur francemusique.fr.